Avec David, on a commencé ce projet de Sigil Séance Against Space Billionaires il y a quelques années. On va vous raconter ça un peu dans le détail. On va vous raconter comment on a ancré aussi ce against, donc le fait que ça soit une attaque. Et on va vous raconter comment et pourquoi ça aussi nous a posé des questions un peu éthiques à certains moments. Je vais demander à l'assistant de passer au slide suivant. Ok. Ouais, c'est très, très, très fluide tout ça, c'est super. Donc là, actuellement, enfin non pas actuellement, mais la semaine dernière, le projet, il a été présenté sous forme d'installation vidéo dans une exposition à Berlin, une exposition qui s'appelle Casting a Spell, avec sous le commissariat d'une curatrice qui s'appelle Arianna Forte, une Italienne, qui travaille sur les questions de magie en régime computationnel. Et ça a été donc l'occasion, cette exposition, de refaire une des séances que Kevin a mentionnées tout à l'heure, puisqu'effectivement, le projet, à part David et moi, il n'y a pas énormément de monde qui y ont eu accès. On a organisé deux fois une séance pour pouvoir proposer à des gens d'y participer. Next. Et je te passe la parole, David, du coup, sur l'ancrage de notre « against ».
Yes. Donc le projet en lui-même, il a débuté en 2021, après le premier vol habité de la fusée touristique New Shepard. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était de la compagnie Blue Origin de Jeff Bezos. Donc ce vol était au mois de juillet, je crois, et puis on a réalisé le projet, c'est autour de septembre, je crois, donc à la fin d'été. Et donc c'était ce moment qui est apparu en fait comme une espèce de vignette de science-fiction mettant en évidence comme ça une figure du milliardaire baron de l'espace comme une espèce d'archétype du méchant de notre époque quoi en fait. Et c'est un peu ce personnage caricatural qui amasse des richesses à une échelle complètement incompréhensible. Tout en se construisant une espèce d'idéologie plus ou moins fascisante à partir de romans de science-fiction et en laissant derrière lui un sillage de mort, de destruction et d'extraction qui nous est apparu assez clairement comme quelque chose qu'il fallait vraiment clairement rejeter quoi, et se protéger contre cette figure quoi, en fait. Et donc à l'époque,
il y avait un article du... chercheur Paris Marx qui avait lancé ce titre un peu en provocateur de laisser ces milliardaires dans l'espace, donc de ne pas les laisser revenir. Et c'est un peu ce sentiment en fait qu'on a partagé quoi, qui a guidé un peu l'impulsion de base du projet quoi, comme si on pouvait les laisser partir mais protéger la Terre de leur retour quoi. Et à partir de là, on a développé donc Sigil Séance, qui est une téléperformance basée sur la Chaos Magic et les Sigils, et qui vise à créer une espèce de réflexion, d'un espace de réflexion, de partage et de réflexion critique sur la ruée vers l'espace des milliardaires. Et qui permet aussi de manifester aussi simplement que ce soit, donc sous la forme de phrases, des alternatives en fait à ce personnage toxique. Et donc notre but en fait en tant qu'artiste et de designer, c'est d'établir une forme de praxis quoi, de pratique réflexive, à la fois réflexive mais en même temps aussi activement engagée dans la formulation et dans les crises qui se déroulent actuellement à de multiples échelles. Donc, je vais demander la prochaine slide. Donc, nous sommes sur la slide 4 pour les gens qui sont à la radio. Le titre, New Space, le complexe milliardéro-industriel, colonial et écocidaire. Nous nous intéressons donc à la course vers l'espace des milliardaires qui a fait les gros titres ces dernières années avec des entreprises que vous connaissez peut-être qui s'appellent donc Blue Origin pour Jeff Bezos, Virgin Galactic avec Richard Branson, même si je crois qu'il est un petit peu en perte de vitesse, mais Virgin Galactic, ça fait longtemps qu'on n'entend plus trop parler, mais je ne sais pas trop ce qui se passe. Et surtout SpaceX de Elon Musk qui fait les titres et qui lance des fusées sur une échelle de toutes les semaines ou toutes les deux semaines, un truc comme ça. Et donc, si c'est ce tourisme spatial qui attire en fait l'attention, quoi, qui est assez photogénique et qui a d'ailleurs déclenché notre propre intérêt pour ce domaine, en fait, il faut bien se rendre compte que c'est une toute petite partie. Pardon, il y a quelqu'un qui entendait une voix, ou peut-être que c'est la mienne, pardon. Une toute petite partie des bouleversements qui sont à l'œuvre d'une échelle bien plus importante du développement d'une industrie spatiale qui a été déclenchée en fait par l'ouverture de l'exploration spatiale aux intérêts commerciaux en 2015 par les États-Unis, qui a vraiment déclenché une vague d'entrepreneurs, de start-up et compagnie qui sont tous à vouloir profiter, quoi, de la conquête spatiale. Et donc, nous, on considère le futur qui est proposé par ces milliardaires barons de l'espace comme très radical, sous plusieurs axes, en fait, dans le sens de radicaliser et de dangereux. Donc, ces vecteurs, en fait, de danger, on en identifie à au moins deux, quoi, donc l'écocide et la colonisation. Il y a aussi différentes échelles. Donc, en fait, il y a l'espace en lui-même, mais en fait, l'espace, ça sert aussi de diversion pour faire des choses sur Terre, quoi, en fait, déjà capturer des territoires, engager des industries, capturer des ressources, etc., des financements publics, etc. Et donc, si on se tourne d'abord vers l'espace, il y a peut-être les mécanismes les plus faciles à identifier, qui sont des schémas, en fait, et des opérations propres au processus colonial que Utrata décrit comme des processus de dépossession qui consistent en fait premièrement à délimiter un territoire, donc à produire en fait un territoire là où il n'y en avait pas forcément avant, un territoire au sens d'actif, quoi, commercial, quantifié, qui peut ensuite donc être revendiqué et approprié en fait. Et il y a aussi toute une mythologie en fait que Smiles, dont Smiles parle dans ce contexte, donc tout un mythe, une mythologie du colonialisme américain, où il y a des termes en fait qui sont encore employés de manière assez courante, quoi, dans le discours actuel sur l'espace. Donc on parle de termes comme destinée manifeste ou frontière. Donc tout ce qui a été la frontière américaine, quoi, en fait, se retrouve maintenant projeté vers l'espace. Et des concepts sous-jacents tels que la terra nullius, donc encore une fois cette idée de terre en fait qui n'est rien jusqu'à ce qu'on la transforme en actif et en parcelle quantifiée, quoi, qui donc sous-tendent tous ces projets de et ces discours autour de la colonisation, par exemple de Mars par Elon Musk, qui est documenté dans un papier plus ou moins technique, mais qui porte en lui toutes ces visions. Si on se tourne maintenant vers l'orbite terrestre, c'est une réalité beaucoup plus banale, en fait, industrielle presque, qui est déjà...
Tu nous dis à quel slide on en est ?
Yeah, j'entends pas, en fait.
Tu nous dis à quel slide on en est ?
Oui, on en a à quel slide ?
J'entends plus. Ah, voilà. Ouais.
À quel slide doit-on se placer ?
À quel slide on en est ?
À quel slide ? Ah oui, pardon, ouais, j'ai passé, ok, 9, pardon, 9, la prochaine, désolé.
Ok.
9, la prochaine.
Ok, 9.
Ça, c'est la
9.
Ok, oui, je vois votre écran, j'ai l'écran qui est partagé, c'est celui-ci. C'est Amazon Python, ouais, c'est ça. Pardon, ouais. J'ai changé de mon côté, mais j'ai oublié que c'était pas en synchro. Oui, l'orbite terrestre, c'est une réalité beaucoup plus banale qui est à l'œuvre, mais peut-être d'autant plus toxique, puisque la vision est en fait déjà partiellement déployée en termes d'infrastructures techniques, quoi, qui sont déjà à l'œuvre. Et là, il s'agit plus d'une expansion massive de l'infrastructure numérique qu'on connaît, et faisant partie d'un combat et d'une course en fait acharnée pour le contrôle de l'infrastructure informatique, quoi. Donc, par exemple, ici, ce qu'on voit, c'est un brevet de Amazon qui prévoit de placer des data centers dans l'espace, enfin, dans l'orbite proche, afin d'améliorer l'efficacité des flux de données via des satellites. Donc, on voit ici des mécanismes aussi de capture, etc., mais bon, beaucoup plus proche de la Terre. Et bien sûr, il y a SpaceX qui a déjà, donc Elon Musk, qui a déjà colonisé d'une certaine manière le ciel avec en enveloppant la planète d'une couche de satellites Starlink, couche assez dense, qui nuit irrémédiablement à la qualité du ciel nocturne en termes d'exploration scientifique aussi. Ça pose d'énormes problèmes et on voit sur l'image la densité de ce film quoi, qui entoure maintenant notre planète et qui a été capturé comme ça unilatéralement par un milliardaire. Donc en résumé, le futur qui est proposé par les milliardaires barons de l'espace est une idéologie radicale de l'accélération et de la capture à une époque où toute l'attention devrait être portée sur les limites planétaires. Dans sa pire forme, la conquête de l'espace est une stratégie cynique de la fuite, une espèce de profonde trahison de la vie sur Terre, en fait, puisqu'elle l'abandonne et cherche juste à se propulser quoi, jusqu'à la prochaine planète à piller. Donc, non seulement cette promesse n'est pas la bonne, mais les entrepreneurs échouent en fait continuellement à la tenir, comme l'illustre en fait le calendrier de Musk de 2017, qui indique que les vols pour Mars étaient censés avoir lieu en 2023. Donc en fait, on remarque que cette frontière technique, en fait, elle est non seulement c'est pas le bon objectif, mais en plus il est continuellement repoussé de 5 ans en fait, et il n'arrive jamais à la promesse qu'il avait donnée au départ. Donc Rubenstein nous montre comment les fondements de l'idéologie idéologique pardon, du colonialisme spatial sont liés à la religion. Et donc ça nous a paru intéressant en fait, alors que nous ressentions l'urgence de nous protéger de ces dynamiques nous et la planète en fait, l'avenir mortifère, qu'une riposte en fait au niveau spirituel pourrait être un terrain assez pertinent pour mener cette bataille. Donc là, avec la prochaine slide, je vais laisser le micro à Lucille. Donc on passe à la prochaine slide, c'est une séance.
Yes.
Slide numéro 12.
Merci David. Est-ce que c'est tout bon pour le son? Ouais. Ok, on passe à la 13 du coup. Donc moi j'arrive un peu là-dessus, donc c'est comme vous aurez compris surtout David qui a fait tout ce travail de recherche du coup de où on en est sur les questions de colonisation de l'espace par l'espèce humaine. Et moi j'en arrive plus avec les questions de rapport entre technologie et magie ou spiritualité ou ce genre de questions-là. On a un a priori ou une sensation de paradoxe dans le fait de recourir aux technologies contemporaines, aux technologies numériques pour faire de la magie. Ça semble exacerber une tension entre deux mondes, entre un monde surnaturel et un monde computationnel. Mais cette tension, elle est le fruit d'un ensemble de présupposés qui sont normatifs, qu'on peut interroger. D'une part, il y aurait des technologies numériques qui sont associées à une conception objective et efficace du monde. Et de l'autre, on aurait la magie qui renvoie à un imaginaire merveilleux et inaccessible, passéiste, voire nostalgique. Mais cette tension, elle repose sur une discontinuité qu'on peut questionner. Slide suivant. Donc on en est au 14e slide. À propos de technologie et de surnaturel, bah, y a déjà des gens qui sont passés ici à MIG et qui ont travaillé dessus. Je pense à tout le travail de Gwenola Wagon et Stéphane de Goutin pour World Brain. Notamment, donc là, on a quelques images du Télégraphe et Spirit, mais ils avaient fait toute une enquête sur les vieilles nouvelles technologies, ou en tout cas la façon dont, à chaque fois qu'il y a une invention technique, on va lui prêter des propriétés ou des capacités surnaturelles. Donc quand on invente le télégraphe, on a la possibilité de parler à distance ou d'envoyer un signal à distance, bien plus loin que ce que nos corps physiques peuvent faire. Et on se dit, ok, mais si on peut traverser le temps et l'espace, peut-être qu'on peut traverser d'autres types de couches et peut-être qu'on peut parler avec les fantômes ou avec les morts. Donc ça, c'est un travail d'enquête qui a nourri le travail de Gwenola et Stéphane. Et puis, à peu près à la même époque, là, on était en 2015 pour World Brain, et de 2013 à 2016, il y avait aussi le projet Media Medium de Jeff Gez et Gwenola Wagon encore. Je suis à peu près certaine qu'ils ont dû passer à MIG pour le présenter, à peu près, parce que je n'ai pas révisé, en vérité. Je ne suis pas allée vérifier les archives pour être sûre. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment ces questions d'associer des technologies qui sont nouvelles à un moment donné à interroger les esprits, parler aux morts, essayer de se connecter à d'autres strates que celles auxquelles on a accès directement. Ben, en fait, on retrouve ça régulièrement dans l'histoire des techniques et voilà. Ensuite, avec David, on a commencé à papoter ensemble parce qu'on s'est rendu compte qu'on était fan un peu d'un même type de choses et notamment des diagrammes très cryptés. Donc là, je vous présente juste une page de diagrammes qui sont extraits d'un bouquin de Aleister Crowley et MacGregor Mathers. Ça date de 1904. On va aller au slide suivant et on va aller avec Osman Spar, qui lui est un Anglais britannique, qui a aussi beaucoup théorisé sur cette façon de dessiner des signes, de mettre en place des protocoles assez complexes pour dessiner ces signes. Vous voyez du coup un exemple, là on a les lettres du mot « woman » qui sont associées différemment et on a trois sigils différents qui viennent associer le dessin des lettres « woman ». Et l'objectif que nous donne Osman Spar quand on doit dessiner des sigils, c'est notamment qu'on en oublie le mot qu'on avait mis dedans au départ. Donc en fait, c'est déjà un protocole où on agit sur notre propre conscience en faisant ce truc-là. À un moment donné, on doit dessiner un sigil, le charger, mais le dessiner tellement, de façon tellement cryptée qu'on ne sait même plus soi-même de quoi on l'a chargé comme sens. Et ensuite, on va le porter en ayant perdu son sens. Alors évidemment que de l'extérieur, c'est encore plus cryptique dès le départ. Mais l'objectif dans la pratique d'Osman Spar, c'est vraiment de perdre le sens du sigil, y compris pour celui ou celle qui le dessine. Et ça, c'est une pratique développée par Osman Spar qui est reprise par Aleister Crowley et qui va notamment s'imprégner, enfin être encore active aujourd'hui dans ce qu'on appelle le chaos magique ou la magie du chaos, qui est une tradition moderne de magie qui se caractérise par l'utilisation d'un changement de paradigme. Donc il y a une cosmogonie libre, il y a des croyances assez diverses. Et la croyance elle-même est l'outil pour obtenir des effets. On entend bien déjà qu'en fait, on va se mettre à travailler sur sa propre croyance. Hein. Mais... Crowley, c'est bon, j'en ai parlé. On peut aller au slide suivant. Donc, on en est au 17. Là, vous voyez quelques ciphers. Donc, les ciphers, c'est les grilles qu'on va utiliser pour dessiner les sigils. Autant avec Osman Spar, on prenait les lettres, donc un W, un A, etc., les lettres de woman qu'on va associer graphiquement dans la page, donc on a un jeu typographique. Autant avec les ciphers, c'est un autre principe, c'est qu'on a une espèce de grille comme ça. Nos vieux claviers de téléphone de type Nokia 3310, c'était des ciphers. Et on va en fait dessiner un mot en passant d'une lettre à une autre. Le fait d'utiliser les ciphers pour dessiner des sigils, c'est une pratique particulière. Chez Osman Spar, il n'y en avait pas, par exemple. Et donc, nous, on a utilisé le cipher qui rentre dans un carré de 3 par 3, de côté 3 carrés par 3 côtés, donc on a 9 cases. Donc, dans la première case, en haut à gauche, on va avoir la lettre A, dans la deuxième le B, dans la troisième le C, etc., etc. Et du coup, une fois qu'on arrive en bas à la neuvième case, on est arrivé à I, et on revient à la première case, on a le J, deuxième case K, etc. Donc on a 3 lettres dans presque toutes les cases, sauf la neuvième. D'accord, je décris un petit peu pour la partie sonore des gens qui ne voient pas les slides. Donc ça nous fait AJS dans la première case, BKT dans la deuxième, etc., etc. Et ensuite, on prend notre mot, on retire les doublons et on va promener, en fait, faire une ligne en fait, qui va d'une case à une autre. Et c'est comme ça qu'on dessine le cipher. Et slide suivant, c'est ce qu'a fait David. Donc, le premier projet qu'on a fait ensemble, c'était un sigil pour empêcher donc, les billionnaires qui vont dans l'espace de revenir sur Terre. Donc, c'était un sigil de protection de la planète en se disant « Ok, ces entités sont néfastes. Une fois qu'elles sont parties, tâchons de nous protéger de leur retour. » Et donc, on dessine ce sigil. Mais on va pas juste se contenter de le dessiner à la main, parce que ben voilà, c'est David. Donc du coup, il va tout de suite coder un programme qui va dessiner, enfin qui va tracer le sigil à l'intérieur de notre cipher de 9 cases. Et puis le suivant, on a une petite vidéo. Est-ce qu'elle va Ouais, elle se lance. Super. Et donc, pour le premier, c'était donc Bind Billionaires ou Comes to the Upper Sky, non, ou Go to Upper Sky, ou Fly to the Upper Sky from Coming Back to Earth. Et par la suite, en fait, donc une fois qu'il avait fabriqué le moteur qui permet de dessiner les sigils, bah, en fait, on l'a inclus à l'intérieur d'une web app pour pouvoir l'utiliser collectivement. Et c'est ce que vous voyez donc à l'écran. Là, on a une petite capture écran vidéo de la dernière séance. Alors, c'est sélectionné, c'est accéléré, etc. De la dernière séance qu'on a faite là pour l'expo de Berlin. On était très contents d'avoir des chouettes invités, et notamment White Feather Hunter, qui est une sacrée cybersorcière, elle aussi. Et donc, ce qui se passe pendant la séance, on y vient. Les séances, elles durent environ une heure. On va commencer par faire un tour à se présenter. Donc, on a un chat vocal qui fonctionne et qui n'est pas enregistré. C'est vraiment l'objectif, c'est qu'on puisse papoter librement et dire tout ce qu'on voudra. Par contre, on enregistre ce qui se passe dans la page vidéo. Enfin, on enregistre en vidéo ce qui se passe dans la page donc de la web app, ce que vous venez de voir juste avant en capture écran vidéo. Donc, on commence par se présenter. On peut se présenter sous son vrai nom ou pas. Ça, chacun décide de se présenter comme il ou elle le souhaite, d'indiquer pourquoi il ou elle est là. Ensuite, on vient inviter dans ce cercle, donc nous, on s'est présenté, on invite dans le cercle d'autres entités qui peuvent être des entités de fiction, qui peuvent être des esprits, qui peuvent être des divinités, qui peuvent être des philosophes, des artistes, voilà, qui on veut, pour teinter un peu aussi ce qu'on va discuter ensemble. Ensuite, donc on déclare la formation complète et on commence réellement la séance. Donc on va chacune et chacun à notre tour proposer des phrases et discuter ces phrases et pouvoir du coup les modifier collectivement. C'est ce qu'on voyait aussi se passer dans l'extrait vidéo juste avant. Puis on charge... Est-ce qu'on peut revenir sur le slide juste avant comme ça pendant que j'écris ? Puis on charge donc le sigil. Ensuite, on va libérer les entités qu'on a convoquées avec nous, puis déclarer le cercle ouvert et ensuite passer à une discussion plus informelle pour débriefer un peu de la séance. Voilà. Donc, ce que vous voyez là à l'écran, c'est la façon de se déplacer soi-même dans le petit carré et on va se passer en fait, la petite boule là, entre nous d'un point à un autre. Mais en amont, il faut qu'on soit tous d'accord sur la phrase qu'on a envie de charger et de faire circuler entre nous. Ok, on va avancer deux slides. Et on en arrive du coup aux questions de magie et téléperformance. Donc la notion de téléperformance, c'était quelque chose que j'avais travaillé pendant mon doctorat en arts plastiques parce que ça m'intéressait de savoir si on pouvait faire performance à distance. Parce qu'il y avait comme un paradoxe là-dedans. Parce que si on suit les théories de la performance, c'est vraiment basé sur un ici et maintenant qui est non duplicable, non réplicable. Et alors que donc, dans le télé, quoi que ce soit, que ce soit une téléconférence, visioconférence ou la téléperformance, ben, il y a en fait une médiation. Donc c'était un paradoxe déjà sur lequel j'avais travaillé pendant ma thèse. Et on s'est rendu compte finalement que ben, c'est pas très surprenant que les choses reviennent au fur et à mesure du travail. Donc sur les questions de réunions magiques pour avoir des actions politiques, on a plusieurs références. Et la première, du coup, c'est David qui va la présenter.
Merci. Ouais, donc on est slide 22 là.
On a avancé. Donc oui, une référence importante pour nous, esthétiquement, enfin dans la démarche, mais aussi on verra après dans les questionnements éthiques que ça a soulevé. C'est un groupe de moines appelé Jusatsu Kito Shodan au Japon dans les années 70, et qui était un peu l'avant-garde du mouvement écologiste en fait du Japon. C'était donc un groupe de moines prieurs qui lançaient des malédictions mortelles sur des sites de pollution industrielle pour maudire les propriétaires d'usines responsables pour différentes catastrophes. Donc c'était organisé sous forme de rituel où ils répétaient des mantras et autres pratiques. Et toutes leurs différentes actions ont été documentées par un photographe, Mitsutoshi Hanaga, qui a eu, je crois, plusieurs expositions dans les années qui ont suivi. On va passer à la slide prochaine, à la slide d'après, 23. Et je laisse Lucille parler de Witch.
Donald Trump, en 2016, il y a des groupes féministes politiques qui sont réunis derrière la figure de la sorcière. Et donc ça a donné notamment les Witch de Portland, mais il y en a eu plein des groupes de Witch. Et puis ensuite, c'est arrivé en Europe avec les Witch Blocs, qu'on a aussi vu apparaître dans nos manifestations à Lyon, à Paris, à Marseille, partout. Mais donc en 2016, fin 2016, il y a donc ces groupes de manifestants et manifestantes qui portent un costume qui leur permet aussi de se masquer, parce que vous voyez dans la photo là que on n'arrive pas à détecter leur visage. Ils et elles sont masqués derrière leur tissu noir là. Ils et elles portent des, enfin on va dire elles du coup puisque la figure de la sorcière elle est féminine, donc elles portent des grands chapeaux pointus. Et du coup, elles arborent cette figure de la sorcière alors qu'elles sont en train de faire de la manifestation dans l'espace public. Donc là, on a bien une association entre une figure spirituelle, ou en tout cas associée à une pratique magique, et une action politique. Et il se trouve qu'en parallèle, leur mode de communication sur leur démarche, ça va passer par les réseaux sociaux et par Instagram en particulier. Donc c'est pour ça que vous avez aussi cette capture écran là sur la droite, où on est sur l'Instagram des Witches de Portland, et on a une citation du groupe actuel, donc on est en 2016, qui fait référence au groupe des années 60, aux Witches des années 60, qui revendiquaient déjà d'utiliser figure pour essayer de faire avancer les droits des femmes à ce moment-là, dans les années 60, c'était ça. Je vous laisserai retrouver cette slide pour la lire par vous-même, parce que la citation est longue, je ne vais pas la lire. Slide suivante, à peu près au même moment, on va avoir apparaître sur Insta toujours, aussi sur Twitter, une espèce de cyber-résistance magique. Il y a le hashtag Bind Trump qui va apparaître en novembre 2016. Et de novembre 2016 à octobre 2018, c'est les stats que j'avais faites à un moment donné, il a eu un millier de tags, le hashtag Bind Trump. Le hashtag Magical Resistance, de février 2017, donc il est arrivé un peu après, vous voyez, jusqu'en octobre 2018 toujours, il va avoir 660 tags. Et le hashtag Magical Resistance avec les capitales, celui-là, ça va être 150 tags sur la même période. Donc on est entre février 2017 et octobre 2018. Et ces tags-là, ils accompagnent un ensemble d'images particulières. On voit la carte du tarot de la tour, qui est la plupart du temps renversée. On voit des photos ou des représentations de Donald Trump qui sont particulièrement pas à son avantage. Je suis fan du churros avec des espèces d'épines, le churros orange avec des épines en mode poupée vaudou. On voit qu'il y a une mise en scène qui évoque un rituel ou un autel. Il y a une bougie orange, etc. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui va se pratiquer à chaque pleine lune, à partir du coup de fin 2016. À chaque pleine lune, il va y avoir un rituel documenté, photographié, dont les photos sont postées sur Insta, et dont la notoriété va notamment se faire au lendemain d'un poste mystérieux de Lana Del Rey, qui du coup revendique, enfin voilà, fait appel à The Stroke of Midnight, c'est la légende de la photo. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pratique, elle va être prise au sérieux par deux populations différentes. Vous allez d'abord avoir des magiciennes et des sorcières qui disent « Mais arrêtez de faire vos conneries de politiciennes, enfin de personnes qui sont dans des engagements uniquement politiques, parce que là, vous êtes en train de faire de la magie à une échelle dans le monde entier. Vous êtes extrêmement nombreux et nombreuses à faire ce rituel. Vous ne savez pas ce que ça peut avoir comme conséquence, en vérité. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de rappeler sur la planète, là, à chaque pleine lune, à faire votre magie pour la poster sur Instagram. » Donc ça, c'est une première population qui prend ce rituel collectif, qui, à une échelle inédite, très au sérieux. Et puis en face, on va aussi avoir des catholiques white suprémacistes qui vont faire un appel à la prière. Et le hashtag Prayer Resistance va aussi se lancer. J'étais un peu longue, mais c'était juste pour vous donner cet ancrage-là qui est un peu cool sur les magies en ligne. Et la dernière ref, c'est pour toi, David.
Oui, donc la dernière référence, c'est, on s'éloigne un petit peu de, vraiment du champ de la magie, mais ça nous paraissait pertinent. Il y a un projet qui s'appelle The Hologram par Cassie Thornton, qui est sorti à peu près... en fait, elle avait déjà commencé, mais c'est sorti au moment du Covid et des confinements, etc. Et c'est vraiment une espèce de réponse en fait, aux échecs des systèmes de santé. Et elle propose donc une espèce de modèle en forme de peer-to-peer où trois personnes se retrouvent à soigner en fait, une quatrième qui est au centre de la formation. Et c'est tout un modèle donc de peer-to-peer, d'échange de soins et d'une espèce de modularité, d'une viralité aussi du modèle où en fait chaque personne peut servir, enfin être dans le soin dans certaines formations et puis ensuite organiser sa propre formation de soins où elle est au centre en fait. Enfin bon, il y a plein de dynamiques qui sont assez intéressantes et qui résonnaient avec certains aspects de notre projet en fait. Donc, on va repasser sur la prochaine slide. Donc, comme on l'a dit, le projet, il avait commencé relativement innocemment, en fait, avec le générateur de sigils, qui était vraiment notre petit programme à nous, quoi, en fait. Mais en fait, au fur et à mesure, on s'est mis à rendre l'application collaborative et à organiser, en fait, des rituels avec d'autres personnes. Des questions se sont posées vu que ça nous obligeait en fait à prendre plus au sérieux les conséquences potentielles du rituel. Donc, je ne sais pas si tu veux continuer là-dessus, Lucille. Ou...
Enfin, donc les moines Jutsatsu Kito Sodan qui ont été mentionnés tout à l'heure par David, ils ont recours à une magie noire, ce qui était en fait très mal vu par des bouddhistes qui, eux, adhèrent à une stricte non-violence. Mais eux, ce groupe-là, au regard de l'ampleur des dégâts mortels qui sont provoqués par la pollution industrielle, ont estimé qu'une malédiction mortelle était justifiée. Et là, en fait, on voit une des questions éthiques qui apparaît, en fait. Dans notre cas, on va considérer, nous deux, que l'ordre cosmique tout entier est suffisamment menacé pour justifier de graves malédictions. Mais quand on invite des gens à participer à nos séances, on ne peut pas les obliger à adhérer a priori à tout ce qui va être formulé, chargé et lancé. C'est un point qu'on a pris pas mal de temps à discuter avant de faire la... Enfin, une fois que la partie technique était faite et avant de faire la première séance, c'est un point qui nous a pris pas mal de temps, qu'on a discuté notamment avec des gens du laboratoire sauvage des sorceliers La Finance, je ne sais pas si vous les connaissez, qui sont basés à Bruxelles, Camille Lamy, Fabrice Sabatier, enfin voilà, c'est toute une clique qui font aussi des performances dans l'espace public... comme son nom l'indique, pour désorceler la finance. Donc on entend bien qu'il va y avoir aussi une critique anticapitaliste très présente aussi. Donc en fait, on s'est demandé nous-mêmes comment se positionner dans un nuancier d'action magique qui va aller de la sphère de protection jusqu'à de la riposte préventive qui va passer par du lancement de sorts. Et comment on se positionne là-dedans. On est également conscient que notre logiciel a pour but donc, d'inviter d'autres personnes à réfléchir à leur propre niveau de réponse et de trouver la façon proportionnée de répondre à ces questions-là. Et donc, la question, c'était comment respecter leur libre arbitre à chaque étape du rituel. Et donc, c'est comme ça qu'on a, du coup, mis en place un mécanisme de consentement qui va, qu'on a explicité, qu'on va expliciter. En tout cas, c'était le principe des petites couleurs vertes et rouges. En fait, à chaque étape, à chaque fois que la formulation est changée, vous devez à nouveau consentir pour participer du coup à charger la phrase et à l'activer. Donc ça devient un truc un peu joueur comme ça dans sa forme. Mais derrière, en fait, il y a vraiment cette question d'un consentement à une action magique avec des conséquences qui sont potentiellement très néfastes. Puisqu'en magie, La base, c'est que tout ce qu'on demande va avoir un coût. Donc, revoyez Charme, de revoyez toutes les... oui, je sais que ça va être rigolé. C'est vraiment la question de base. On en arrive du coup à notre conclusion. Donc, on vous présente en fait ici le projet pour la quatrième fois, même si cette fois-ci, il n'est pas activé avec vous. Peut-être, ouais. On en arrive à une forme de praxis qui ouvre un espace qui nous permet d'analyser collectivement le futur radicalisé des milliardaires, les barons de l'espace, et d'exprimer notre résistance. On a mené donc deux séances avec des retours positifs, mais aussi des retours qui nous amènent aussi à réfléchir comment continuer de pratiquer ces séances en ligne et collectives. On va continuer de faire des séances, donc si vous êtes intéressé, on va vous montrer l'endroit. Enfin voilà, faites-nous le savoir pour qu'on vous y invite. On a envie de faire une temporalité récurrente. Après, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, à se rendre disponible tous les mois, etc. Et puis, ouais, cette temporalité, donc cette récurrence des séances, elle pourrait être alignée sur les saisons et sur les lancements spatiaux et commerciaux. On peut passer à l'image d'après, mais en fait, c'était l'illustration pour exactement tout ce que je viens de dire. C'est la nappe que vous voyez là sous la télévision pour les personnes qui sont présentes. Il y a une notion qui était importante aussi, qui a accompagné tout le projet. C'est la notion de souveraineté technologique, c'est le slide 30. C'est une notion qui est travaillée notamment dans un des petits manuels 369. Je peux vous le faire passer. Ça recouvre, en fait, elle est tirée de la notion de souveraineté alimentaire et ça vient recouvrir des questions d'autonomie, des possibilités de choix d'outils qui sont culturellement et socialement adaptés, une priorité au local et un respect de l'environnement. Et en fait, ça, c'est une espèce de trame de fond. Alors, c'est une façon spécifique d'adresser cette notion-là, parce que, comme David me le dit, dans le milieu de la tech, ce terme de souveraineté, il n'est pas forcément entendu selon cette acception-là. Donc, c'est pour ça que j'ai amené la référence. Mais en fait, c'est donc les prochaines étapes de dev ou de... pas seulement d'organisation des séances, mais de développement du projet, elles vont aussi s'orienter sous ce chapeau-là. Et je passe la parole à David sur le slide 31.
Ouais, merci. Donc il y a un certain nombre de développements en fait techniques qui sera intéressant pour les prochaines étapes du projet. Donc la première, c'est l'ouverture de différentes salles en fait pour que différentes personnes puissent se rassembler dans des espaces plus ou moins privés en fait et créer leur propre petite séance quoi. En fait, on a déjà commencé un peu ça à la dernière séance. Nous nous intéressons aussi en fait aux politiques de l'infrastructure. Et à une certaine forme de résistance politique des réseaux peer-to-peer, en fait. Donc, en fait, il faut bien être conscient que les barons de l'espace sont aussi des barons de l'infrastructure d'Internet quand il s'agit de Musk ou de Bezos. Bezos a beaucoup plus de pouvoir dans ce domaine-là, mais bon, Musk avec Starlink, etc., a clairement des ambitions. Mais donc, ça paraît à propos de vraiment penser à comment est-ce que l'application qu'on produit, l'espace qu'on ouvre en ligne, en fait, comment est-ce qu'il est produit, dans quelle infrastructure il se situe. L'idée de relier directement des appareils entre eux en peer-to-peer, ce qui est possible maintenant, devient une forme poétique, en fait, de résistance infrastructurelle, vu qu'on essaie d'éviter au maximum les gros serveurs et les gros data centers des milliardaires. À l'heure actuelle, l'application, elle fonctionne avec une technologie qui s'appelle WebSocket, mais il y a d'autres possibilités qui rendraient la connexion plus comme du vrai peer-to-peer. Donc, par exemple, on pense à WebRTC, où les appareils sont connectés directement, ou encore WebXDC. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent l'application Delta Chat, mais maintenant, on peut avoir des applications dans Delta Chat. Tout ça, c'est des applications qui, qui pirate. En fait, c'est une espèce de WhatsApp et qui marche par email. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais tout ça pour dire qu'en fait, on s'intéresse assez en profondeur en fait à la qualité en fait de ces connexions qui sont faites entre les participants de la séance. Et en faire de cet endroit vraiment une espèce de petite niche de résistance assez profonde en fait des infrastructures toxiques. Prochaine slide. Il y a enfin peut-être des développements un petit peu théoriques qu'on souhaiterait pousser. On a découvert en fait toute une littérature de vision alternative de l'espace et du cosmos qui nous semble à propos de lire et d'utiliser plus consciemment dans le projet, en particulier approfondir nos connaissances des visions indigènes qui résistent depuis des centaines d'années en fait à ce type de futur coloniaux et écocidaires auxquels on se cotine à l'heure actuelle. Et pour reprendre les termes de Mary-Jane Rubinstein, en fait, c'est peut-être une recherche de meilleure mythologie qui pourrait nous propulser vers la prochaine étape du projet. Donc, on arrive à notre dernière slide où on vous remercie beaucoup pour votre attention. On vous donne l'adresse du projet. Donc, si vous allez à sigil-seance.diagramme.institute, vous pouvez voir l'application. Vous êtes connecté avec tous ceux qui sont connectés en même temps que vous. Donc, si vous êtes assez, vous pouvez vous improviser des petits rituels, je ne sais pas. On a aussi un email, sigil-seance@diagramme.institute si vous voulez vous inscrire dans la liste pour être mis au courant des prochaines séances. Et nous attendons maintenant vos questions et vos discussions. Merci beaucoup pour votre attention.
Il y a à peu près 80% de ce qu'on vous a, ou 90% de ce qu'on vous a montré ce soir. Vous pouvez le retrouver sous forme de paper, parce qu'on l'avait présenté en version anglaise. Donc, toutes les références qu'on a mentionnées, presque, elles sont aussi sur le site. Vous pouvez retrouver le paper.
Et on peut retransmettre le lien aussi des diapos, enfin des slides, pour avoir les références de la présentation.
Merci.
Et puis je propose qu'on passe sans attendre en fait à la partie plutôt des questions, parce que j'imagine qu'il y a quand même pas mal de questions après toutes ces interventions. Et puis donc, comme je le rappelais tout à l'heure, il faudra bien parler dans le micro à chaque fois qu'on posera une question. Puis on va essayer de le faire tourner de manière à ce que voilà, tout le monde puisse s'exprimer. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vois qu'il y a une question ici tout de suite.
Oui, moi je m'inquiète de l'action véritable, effective contre les billionnaires. Et vous faisiez référence aux cosmogonies de peuples qui résistent au colonialisme, etc. Mais force est de constater qu'ils n'ont pour l'instant pas gagné la partie, loin de là. Ils ont été en grande partie écrasés, opprimés. Et comment est-ce que vous pouvez fonder un espoir sur ce genre de vision dont on voit concrètement que ça n'a pas fonctionné.
Ben, je pense que dès l'instant où on participe à fabriquer un imaginaire et à faire vivre un imaginaire de cette résistance, déjà, on travaille dans la bonne direction. Après, l'efficacité réelle de Elon Musk, enfin d'attaquer Blue Origin ou d'attaquer Elon Musk, peut-être aussi qu'on n'est pas encore à un niveau de maturité suffisant pour que notre magie qui veuille sa mort ait eu lieu, en fait. Parce que c'est peut-être pas encore ce qu'on a formulé ou ce qui a eu lieu dans les séances. Tu vois, pour l'instant. Et,
Oui, je trouve ça super intéressant. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé l'exposé. Je trouve ça fascinant. Enfin, ça me plaît beaucoup ce lien entre cette magie noire, mais qui devient technologique et qui se crée. Il y avait le lien avec les esprits. Ben, maintenant, les esprits, ça passe par le numérique. Mais je posais cette question sur les sigils. À quel moment, justement, dans, parce que je ne vois pas en fait comment ça se passe très très bien ces séances, à quel moment est-ce que ce sigil, qui est donc une phrase, si j'ai bien compris, pour laquelle vous êtes en accord, au bout d'un moment, et ben, quand est-ce que vous la portez, quand est-ce qu'elle va partir dans cette... normalement, on communique avec les esprits, quand est-ce qu'on a l'impression de communiquer avec une instance supérieure, numérique, ou je ne sais pas, comment se fait ce passage? Parce que là, je ne vois que ce qui se passe entre vous. Je ne vois pas comment vous faites cette interférence, interaction.
Alors, on va peut-être préciser, faut peut-être qu'on précise peut-être le processus de lancement. Parce qu'en fait, c'est vraiment l'idée, ce que théorise Osman Spar, c'est donc la forme qui contient la phrase, en fait, est chargée et ensuite elle est lancée. Et en fait, pour faire ce processus, une fois que donc tous les petits noms, donc là on a remis la vidéo sur l'écran, c'est ça. Ouais. Une fois que tout le monde est en accord, donc on a cet état de consensus qui est activé en fait. On se passe la petite forme qui est sur la grille. En fait, on la fait passer sur chaque lettre qui trace la forme. Donc chaque à travers en fait toute la phrase du sort, et c'est une fois qu'elle est que ce processus est complété en fait qu'on considère que le sigil est lancé. C'est un petit peu notre compte à rebours en fait à nous, quand on voit les scènes de lancement de fusée par exemple où tout le monde compte jusqu'à 3, 2, 1, 0, ben en fait nous on passe dans la phrase quoi, et c'est à la fin, une fois que la phrase a été complètement traversée, qu'on considère l'énergie lancée quoi. Donc ça c'est le côté pratique du lancement.
Je comprends que du coup ça crée une magie de cette phrase là mais est-ce que justement si ce signe, ce dessin que vous avez obtenu, on pouvait le voir partout, est-ce que ça pourrait pas faire une puissance plus forte de votre magie?
Ta question, elle était aussi sur comment on se connecte à d'autres strates. Et en fait, là, la forme rituelle ou la forme magique qu'on a choisie, c'est du rituel. Donc, c'est un rituel dans lequel on forme un cercle. Dans ce cercle, on peut inviter d'autres entités que nous-mêmes, qui peuvent être, c'est vraiment très ouvert, on peut avoir des entités de fiction, oui, mais on a aussi invité Marx dans certains de nos rituels, ou on a invité des sorcières qui ont été brûlées, enfin c'est très ouvert, donc là-dessus, ça s'inspire plus de la tradition reclaiming. La tradition reclaiming, son ambassadrice ou sa figure la plus connue, c'est Starhawk. Qui est une des cofondatrices de Reclaiming. Et Starhawk, pour les textes écoféministes, elle est assez connue. Je n'ai pas l'impression que ça fasse qu'il y en a qui connaissent. Bon, en tout cas, c'est une forme de rituel ou une recette rituelle en fait, qui préexiste à ce qu'on fait. Donc on forme ce cercle et ensuite, à l'intérieur du cercle, on va entamer les négociations de c'est quoi la forme ? Il y a la phrase. C'est quoi la phrase sur laquelle on se met d'accord ? Et une fois que cette phrase elle est formulée, là, du coup, on le dessine et on le lance. Mais si tu veux, il y a, de toute manière, il y a...
De manière spirituelle, quoi.
Ouais, de manière symbolique. Symbolique. Mais en fait, déjà, formuler la phrase, c'est que symbolique, puisque notre langage, il est symbolique. Enfin, t'as plein de couches, en fait, où tu parles vraiment que à l'intérieur du monde des humains, quoi.
Une autre question, je passe le micro.
C'est une question courte. Qu'en pensent les mathématiciens ?
C'est bien fait.
On leur a pas parlé.
Il y en a un dans la salle.
On en a un dans la salle. Je suis déjà expliqué.
Je crois qu'il a dit que c'était pas très efficace.
Ben, il faut améliorer l'efficacité. J'ai une démarche empirique. Voilà,
il y a une autre main qui se lève.
Moi j'ai une question, c'est pas très clair pour moi. Au début vous citez un texte et tu disais que on voyait déjà comme ça suggérait que le fait de changer de paradigme dans sa tête c'était ça qui fabriquait la magie, quelque chose comme ça.
Ouais.
Et donc ma question est la suivante, mais le but c'est de discuter. Est-ce que ce que vous faites, c'est un projet artistique ou magique? Et si c'est les deux, dans quel ordre?
Oui, non, c'est les deux, ouais, carrément. C'est... Ben, c'est comme si tu me demandes si c'est de l'art ou du design ou de la magie ou de la programmation. Ou, enfin, c'est un peu, c'est tout. Il n'y a pas une démarcation nette. Après, pour revenir sur la question de l'efficacité ou de la performativité de ces rituels, moi, ce que je vois en termes de pratique magique, c'est qu'à un moment donné, ce qui se passe dans le rituel a une efficacité parce que ce qui se passe dans le rituel a une efficacité. Et que ben, là, on l'a fait deux fois avec des gens. Donc, c'était un peu ma réponse à Emmanuel tout à l'heure, en fait, c'est que vraisemblablement, pour l'heure, nous avons mis en place un ensemble de protocoles, mais qui n'a pas encore été performé de façon suffisamment efficace. Et ça, c'est ma partie de la réponse. Peut-être David a autre chose à en dire.
La raison pour laquelle je pose cette question, c'est que pour moi, ça a fait tilt quand vous avez montré l'image avec tous les posts Instagram.
Ah oui.
Dans tous les posts Instagram. Et peut-être que tout d'un coup, ce que je me suis demandé, c'est à partir de quel moment du rituel ça devient magique. C'est-à-dire, est-ce que c'est le moment où on fait le rituel qui fabrique l'image, ou est-ce que c'est le moment où l'image est diffusée et tout d'un coup il y a une ambiance qui se propage, et est-ce que c'est pas finalement après le rituel que ça devient magique? C'est pour ça que je posais la question du rapport entre l'artistique et le magique.
En fait, bon, je ne sais pas, oui, dans quel ordre magique, artistique. Pour moi, c'était peut-être artistique en premier, vu que c'est ça qui m'a prompté, enfin, encouragé à chercher vers la magie. Mais en fait, je voulais revenir peut-être sur un lien entre ça et, enfin, ta question et celle qui a été posée un peu avant sur est-ce que ce serait pas plus efficace d'avoir le sigil partout, de voir le sigil partout, de multiplier ces, disons, comme des, on pourrait l'imaginer en sticker ou quoi, mais en fait toutes ces questions, enfin oui, pourquoi pas, en fait c'est plein d'autres, ça pourrait être d'autres manières de créer cette situation de chargement et de lancement et donc de moment avec un potentiel magique ou disons un potentiel de disruption de ce qu'on veut contrecarrer, en fait. Mais nous, il se trouve que dans le projet, ça a pris la forme d'une présence collective, donc devant une page web, avec ces systèmes de consentement et ce support donc de l'appel ou de la conférence audio. Et donc, c'est, enfin voilà, comment est-ce qu'on crée en fait les conditions d'un moment chargé de potentialité, en fait. Donc nous, il se trouve qu'on a travaillé sur petit à petit sur cette forme-là du rituel tel qu'on vous l'a présenté, mais en fait, on pourrait très bien imaginer, enfin moi j'imagine très bien une version où en fait le générateur de sigil, il sert à faire des stickers qui sont imprimés par milliers et qui couvrent toute une ville. Enfin, ça, j'adhère aussi, quoi. Ou alors des robots qui postent ça sur Instagram. En faisant devenir, enfin, des reads Instagram faits en sigil qui pourraient ensuite, voilà, avoir une espèce d'efficacité plus virale comme ce dont tu parles. Donc en fait, tout ça, ce serait d'autres potentialités, d'autres méthodes d'ouvrir les potentialités qui pour moi sont tout aussi intéressantes. Quoi. Là, il se trouve que nous, on en a exploré une qui est la page web collaborative. Quoi. Mais pourquoi pas tout le reste, hein.
Le premier « Bind billionaires who go to the upper skies from coming back to Earth », une des choses qu'on imaginait, c'était juste de le faire une fois, de trouver 9 personnes, en nous incluant nous, où on aurait été géographiquement en train d'être autour du site de lancement. Et on voulait vraiment que ça lance l'information en dessinant le sigil, mais par le parcours de l'information. Sauf qu'en fait, ça ne fait pas sens, puisque l'endroit où nous allons nous trouver physiquement, de toute manière, l'information, elle va passer par des nœuds qui sont ailleurs. Donc en fait, ce dessin-là de la circulation de l'information n'était pas opérant. Ou alors, ça nécessite de fabriquer une autre infrastructure spécifique juste pour faire ça. Mais why not ? C'est des pistes. En tout cas, là, on en est arrivé à un moment où, finalement, autour de tout ça, ce qui se passe et qui n'est pas enregistré, c'est les échanges qu'on a pendant qu'on fait la séance. Et du coup, ça dépend vraiment des personnes qui y participent. Pour l'instant, en plus, on l'a fait deux fois, pas dans notre langue, on l'a fait en anglais. Donc, il y a aussi moins d'essence, enfin, pour ma part, en tout cas. Moi, j'ai pas fait mon doctorat en anglais, moi, contrairement à d'autres. Mais du coup, j'ai moins d'aisance, donc il y a, voilà, il y a un truc de fluidité ou de qui est moins présent, quoi.
Je refais passer le micro. Il y a encore des questions.
J'ai une fausse question. Est-ce que pour que ça marche vraiment, il faudrait pas qu'à la fin ce soit des NFT?
C'est moche. C'est moche ce que tu dis.
Un bébé phoque tué pour chaque sort.
On va pas se pesanter sur les NFT tout de suite, ça sera plutôt la partie informelle. On va rentrer dans le. Voilà. Non, mais continuons, il y a encore des questions.
On va vous répondre après. Désolé. J'ai pas de curiosité, il y a eu combien de séances de sigils qui ont été faites? Est-ce que vous les avez tracées? Est-ce que vous les avez inventoriées? Enfin, c'est peut-être tout frais comme projet, mais je veux juste savoir s'il y a des groupes qui sont formés, puis il y a une suite d'interactions suite à ces rencontres entre personnes qui se connaissaient peut-être après. Et est-ce qu'il y a eu des conséquences imprévues suite à ces séances?
Alors, ma part de réponse, ça sera « on ne sait pas ». Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on arrive sur la page, on voit le dernier sigil qui a été lancé. Il y a comme l'empreinte de la dernière séance. Et effectivement, des fois, on arrive et on voit que quelqu'un a fait un truc, quoi. Mais on ne sait pas si c'est quelqu'un plusieurs, on ne sait pas. Et on ne sait pas si des gens y vont pour se connecter. Peut-être qu'il se passe des trucs sur le site, là, en ce moment, pendant qu'on se parle. Mais du coup, David, tu as peut-être un regard, toi, plus un accès au backstage du site internet.
Bah non, justement, c'est une technologie assez magique, donc il n'y a pas vraiment de backstage, en fait. Enfin, rien auquel j'ai accès, mais oui, en fait, il y a ce dont parlait Lucille, ces espèces de fantômes parfois qui restent, de gens qui ont tapé quelque chose pour essayer, etc. Bon, ça veut dire qu'il n'y avait pas tout, sûrement pas toute la puissance de multiples personnes connecté en même temps, etc. Pour la formation de groupe, en fait, on l'a fait deux fois pour l'instant, et pas que je sache, en fait, enfin, sauf le groupe de personnes qui, de la liste, en fait, à qui on envoie dorénavant la date de la prochaine pour répondre s'ils veulent ou pas participer. Donc ça, c'est un groupe, enfin, c'est la formation, quoi. Qui se forment autour de ce projet, qui ont des gens qui ont soit participé, soit exprimé leur intérêt pour participer, et qui voilà, qui gravitent autour de ça. Après, donc ce dont je parlais comme des développements techniques potentiels, ce serait de pouvoir créer sa propre salle de séance, en fait, indépendante. Où donc on ouvrirait une forme de voilà, on facilite les séances des autres, mais sans forcément y participer à chaque fois, quoi. Donc ça, c'est un développement potentiel, un petit peu comme le logiciel Jitsi qu'on utilise là pour la vidéoconférence, où on peut créer, juste taper n'importe quel nom et puis ça crée un appel, quoi. Mais ça reste à développer.
D'autres questions, peut-être, avant de conclure, peut-être, sinon. Ah, toujours une question.
Est-ce qu'il n'y a pas une incarnation en présentiel d'une séance sigil autour d'une table? Ça s'envisage ou c'est hors sujet ou...
C'est ça, alors là, il y a eu pour la première fois la scénographie dont s'est chargée Lucille pour une exposition physique du projet, mais ce n'était pas une séance en elle-même, quoi. Donc, je vais laisser Lucille en parler, peut-être.
En fait, le truc à savoir, c'est que David et moi, on s'est vus une fois il y a genre 8 ans, 10 ans, ouais, un truc comme ça.
10 ans, ouais,
en vrai,
ça.
On s'est genre jamais vus en vrai. Enfin, on s'est vus une fois. Mais du coup, en fait, on est que
téléprésents. Peut-être dans le même espace physique en même temps.
Voilà, donc pour l'instant, en fait, ça ne fait pas sens de la réunion physique ou la séance physique, parce qu'en fait, c'est nous deux qui portons ce projet-là et que du coup, notre modalité de travail ou d'interaction, elle est que à distance. Mais après, si, oui, là, ben, je viens de faire ces petites nappes, là. ça pourrait se décliner. Mais c'est juste qu'on ne l'a pas, prévu comme tel. Et vraiment, encore une fois, le projet de départ, c'était empêcher les milliardaires qui sont dans l'espace de revenir sur Terre. Donc du coup, il y a vraiment cette idée de faire un sigil de protection pour la planète. Donc si on est à un seul endroit réuni, ça fait un point de protection qui est pas... Enfin, tu vois, t'es pas sur un maillage de protection de la planète, quoi. Tu vois ?
Okay. Alors, une autre petite question, ou alors... Alors on va manger. Voilà. Et ben, on va vous remercier tous les deux. Merci beaucoup.
Merci pour.